Vous écoutez, on lit pour vous.
Tous les adolescents sont anxieux et c'est normal. Un texte de Romy Roynard paru le 12 du 16e mois 2024 dans le Journal de Québec. Grand bouleversement, changements hormonaux et nouvelles relations sociales. À l'adolescence, de multiples raisons expliquent l'augmentation de l'anxiété. Comment la gérer et quand faut-il s'inquiéter? Dans le deuxième volet de Vice-versa, Riley vient d'avoir 13 ans et est sur le point d'entrer dans l'enseignement secondaire. L'île de l'amitié a pris une place prépondérante dans son cerveau, faisant de l'ombre à celle de la famille. Ses émotions, joie, tristesse, peur, colère et dégoût ont créé une nouvelle section de l'esprit, l'estime de soi, qui abrite des souvenirs et des sentiments qui représentent la personnalité fondamentale de Riley, les croyances qui la définissent. Alors que Riley s'apprête à partir pour un camp d'été, la console émotionnelle déclenche une alarme. Puberté. Un groupe de travailleurs de l'esprit fait irruption dans le quartier cérébral pour améliorer la console et avertit les émotions que les autres arrivent. Les autres, ce sont envie, ennui, embarras et leur chef, anxiété. Très vite, anxiété prend le dessus et rejette l'estime de soi au fond de l'esprit de Riley. Elle considère également que les anciennes émotions ne sont pas assez complexes pour répondre aux besoins de Riley et les expulse du quartier cérébral. À l'âge adulte, combien d'entre nous se souviennent de l'adolescent qu'ils ont été? Combien le souhaitent, tant cette période peut être éprouvante? Devenue une adulte peu anxieuse, je me suis forcé à me replonger dans mes émotions adolescentes. L'anxiété était-elle alors prépondérante? Cette émotion est-elle inextricablement liée au tumulte de l'adolescence? Est-elle inévitable? Et si tel est le cas, comment apprendre à la gérer? L'anxiété, l'invité surprise de l'adolescence. Grâce aux techniques récentes d'imagerie dynamique non-invasive du cerveau, des chercheurs sont parvenus à comprendre des processus importants du développement du cerveau entre l'âge de 10 et 20 ans. Durant cette période, le cerveau se réorganise en profondeur, notamment au niveau du cortex préfrontal, siège des fonctions cognitives dites exécutives, le langage, la mémoire, le raisonnement. Les connexions et les fonctions de ces structures changent, pour ne se fixer que dans la première moitié de la trentaine. Cette plasticité renouvelée est une chance de rectifier les déséquilibres observés dans la petite enfance. C'est aussi une phase de grande vulnérabilité. Il y a au moment de l'adolescence un changement brutal de l'architecture cérébrale. Elle change pendant toute l'enfance, mais à l'adolescence, le système limbique ou cerveau émotionnel se développe beaucoup plus rapidement que le cortex préfrontal. La maturité postérieure du cortex préfrontal arrive à la fin de l'adolescence. C'est pourquoi la recherche de récompense immédiate n'est pendant cette période pas contrebalancée par une forme de contrôle. C'est pour cela qu'on observe beaucoup de conduites à risque et de débuts d'addiction chez les adolescents, était Philippe Erkberg, psychiatre ancien interne des hôpitaux de Paris installé à San Fernando, en Espagne. L'un des changements hormonaux les plus importants, mis en lumière dans un article paru dans Nature Neurosciences, serait lié à l'augmentation de l'anxiété à la puberté. L'hormone THP, allopregnanolone, présente dans le sang et le cerveau et normalement libérée en réponse au stress chez les adultes et les enfants préadolescents, serait inhibée chez les adolescents, provoquant une plus grande anxiété à la puberté. Chez les enfants et les adultes, des hormones stéroïdes sont libérées en cas de stress continu. Après 20 minutes en moyenne, il a été démontré chez les rongeurs et les humains que cette hormone allopregnanolone était plus présente, explique Cheryl Smith, professeur émérite de physiologie et pharmacologie à la Sony Downstate Medical School et co-autrice de l'étude. Son rôle est d'agir contre les récepteurs alpha 4 bêta delta GABA en les inhibant, ce qui vous permet de vous détendre. C'est un mécanisme qui nous permet de réagir au stress. Mais tout change à l'adolescence. À l'adolescence, les récepteurs alpha-4-bêta-delta-gaba augmentent de façon exponentielle dans plusieurs régions du cerveau, dont celle régulant l'humeur, le cortex préfrontal. Cette augmentation ne serait pas grave si l'allopregnanolone pouvait agir et réguler l'activité cérébrale en cas de stress. Mais à la puberté, l'allopregnanolone provoque une désensibilisation beaucoup plus importante. Les récepteurs, au lieu d'être capables de détendre les cellules nerveuses, n'ont que très peu d'effet. Le résultat que nous observons chez les souris à la puberté est une augmentation de l'anxiété. Si nous faisions la même injection avant ou après la puberté, nous constatons une diminution de l'anxiété. Les stéroïdes libérés en réaction au stress ont donc l'effet inverse à la puberté en raison de la forte augmentation de ces récepteurs dans une partie du cerveau où l'allopregnanolone a l'effet inverse. Quand faut-il s'inquiéter? Il est courant que les adolescents ressentent une augmentation de l'anxiété en raison des changements hormonaux, cognitifs et sociaux qui surviennent durant cette période. Abonde Ariane Hébert, psychologue québécoise et fondatrice de la boîte à psy, qui accompagne une patientèle d'enfants et d'adultes et a notamment écrit « L'anxiété racontée aux enfants ». L'adolescence est une période faite de changements, de questionnements et d'inconnus. Qui suis-je par rapport aux autres et pour les autres? Quelle est ma place dans le monde? À l'adolescence, il faut accepter son nouveau corps, l'intégrer à l'image de soi, développer ses propres valeurs, devenir plus autonome et faire des choix difficiles pour décider de son avenir professionnel. Quel adulte ne se sentirait pas submergé face à tant de changements en des temps si courts? Néanmoins, je ne considère pas que l'anxiété à l'adolescence soit inéluctable pour tous les jeunes. Nuance Ariane Hébert. Les influences familiales, sociales et les expériences individuelles jouent un rôle crucial dans la manière dont l'anxiété se manifeste. Avec un soutien approprié, comprenant des techniques de gestion du stress et un environnement familial stable, il est très raisonnable de penser que les adolescents peuvent apprendre à gérer leur stress de manière efficace. Quels sont les critères permettant d'établir que l'anxiété est suffisamment sévère pour être considérée comme un trouble? Pour Ariane Hébert, il faut distinguer les troubles anxieux de la peur ou de l'anxiété passagère. Pour être considéré comme un trouble, l'anxiété doit être persistante, ce qui signifie qu'elle persiste sur une longue période et excessive, se manifestant de manière disproportionnée par rapport à la situation réelle, dépassant ce qui serait normalement attendu dans des circonstances similaires. De plus, elle doit entraîner une détresse suffisante pour perturber significativement la vie quotidienne de l'individu. Vous écoutez, tous les adolescents sont anxieux, et c'est normal. Un texte de Romy Roynard paru le 12 du 7e mois 2024 dans le Journal de Québec. Suite. Les techniques de gestion du stress. De plus en plus de praticiens recommandent une approche holistique pour la gestion des troubles anxieux, notamment des techniques de respiration profonde, la relaxation, le yoga, la visualisation, la musique comme autant d'outils pratiques dont il est possible de faire usage pour gérer les sensations désagréables liées à l'anxiété. La méditation, par exemple, peut vous aider à avoir une réaction moins forte au stress. L'allopregnanolone ne sera pas libéré en grande quantité et l'anxiété sera moins forte, indique Cheryl Smith. Des ajustements du mode de vie sur le long terme peuvent également induire la production des quatre hormones du bonheur, la dopamine, la sérotonine, l'ocytonine et l'endorphine. La production d'une partie de ces hormones est liée à une alimentation équilibrée et variée, synonyme de microbiote intestinal en bonne santé. L'intestin fournit entre 90 et 95% de la sérotonine de l'organisme. Cette hormone transmet les messages entre les cellules nerveuses et aide à réguler le sommeil, l'humeur et la digestion. Le microbiote intestinal contribue aussi à la production d'autres neurotransmetteurs et substances chimiques, telles que la dopamine et la tryptamine, qui jouent un rôle dans l'anxiété et la dépression. Pour rééquilibrer son microbiote intestinal, il est recommandé de consommer des aliments riches en fibres, comme des glucides complexes contenus dans les céréales, des légumes et des légumineuses, ainsi que des aliments fermentés qui contiennent leurs propres probiotes, des micro-organismes vivants qui augmentent la diversité du microbiote dans l'intestin. Il est aussi recommandé de limiter la consommation de sucre et de les associer à des fibres. Les endorphines sont libérées par l'activité physique, par un divertissement comme de la musique ou un film, mais aussi par le rire. Le contact physique, comme les étreintes, les embrassades ou les rapports sexuels, sont autant de déclencheurs infaillibles de la libération d'ocytocine. Il a également été démontré que le fait de participer à une conversation, de rendre service ou d'interagir avec un animal provoquait une libération d'ocytocine. Pour bénéficier des avantages des techniques et stratégies de gestion de l'anxiété, les enfants et adolescents ont toutefois besoin de référents, rappelle Ariane Hébert. Le rôle du parent devient celui de tuteur et de modèle dans l'application de ces stratégies. Dans une perspective préventive, il est crucial d'être prévisible et bienveillant, de fixer des objectifs clairs et de nourrir le sentiment d'appartenance ainsi que l'estime personnelle de l'enfant afin de créer des conditions de développement optimales. Elle juge par ailleurs tout aussi essentiel d'apprendre aux enfants à confronter leurs pensées anxieuses et à les remplacer par des pensées plus aidantes. Une nouvelle émotion. Si l'adolescence est synonyme d'un pic de l'anxiété, les premiers signes peuvent apparaître dès le plus jeune âge, généralement entre 4 et 6 ans, même dans un environnement stable, c'est-à-dire sans violence intrafamiliale ou scolaire et sans stress traumatique. Parmi les signes et symptômes les plus courants, on observe des changements brusques de comportement tels que l'agitation, l'irritabilité et des excès de colère intenses. Les enfants peuvent également éprouver des difficultés de concentration ou de mémoire, des modifications d'appétit, une propension à la fatigue rapide, ainsi que des défis dans l'établissement de relations sociales, préférant souvent la solitude et ayant des difficultés à s'exprimer en public, énumère Ariane Hébert. Sur le plan physique, ils peuvent se plaindre de maux de ventre, de maux de tête ou ressentir une tension musculaire. Les troubles du sommeil sont aussi fréquents. En outre, ils peuvent rechercher constamment l'assurance de leurs parents, préférant rester près d'eux ou posant des questions de manière répétée. Paul Ekman, psychologue américain et l'un des spécialistes les plus influents dans l'étude des émotions, a élaboré en 1973 la théorie des 6 émotions primaires universelles : la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère et la surprise. Une théorie remise en question en 2017 par des psychologues de l'Université de Californie à Berkeley, qui ont identifié 27 catégories distinctes permettant de décrire toute la palette des émotions qui colorent notre monde intérieur. Admiration, adoration, appréciation esthétique, amusement, colère, anxiété, émerveillement, malaise, embarras, ennui, calme, sérénité, confusion, envie, craving, dégoût, douleur empathique, intérêt étonné, intrigué, excitation, stimulation, montée d'adrénaline, peur, horreur, intérêt, joie, nostalgie, soulagement, romance, tristesse, satisfaction, désir sexuel, surprise. Si toutes les émotions ne coexistent pas nécessairement dès l'enfance, certaines sont déjà installées et selon les expériences que l'enfant vivra et son entourage direct, elles pourront évoluer ou s'intensifier. Dès la naissance, les enfants commencent à développer leur capacité à ressentir et à exprimer différentes émotions. Leur jardin est une terre fertile prête à accueillir une multitude de graines. Les premières graines plantées sont souvent celles liées à des besoins fondamentaux tels que la faim, le confort et la sécurité. Image Ariane Hébert. À mesure que l'enfant grandit, de nouvelles graines d'émotions plus complexes comme la fierté, la honte, la culpabilité et l'embarras sont plantées. Chaque expérience personnelle, chaque interaction avec l'entourage aide ces graines à germer et à s'épanouir. Une rapide introspection m'a permis de me rappeler que mon adolescence, comme les autres, avait été marquée par une plus grande anxiété, des épisodes qui me paraissaient toujours marqués par l'embarras deux décennies plus tard. Mais de la même manière que les émotions de Riley apprennent à se connaître pour coexister au mieux, j'ai appris à gérer les épisodes de stress, du moins jusqu'à ce que mes enfants entrent à leur tour dans l'adolescence. C'était « Tous les adolescents sont anxieux et c'est normal », un texte de Romy Roynard paru le 12 du 7e mois 2024 dans le Journal de Québec.
La pollution atmosphérique aggrave les risques de cancer. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 septembre 2025 dans La Presse. La pollution atmosphérique contribue à l'augmentation des cancers, et pas seulement dans les métropoles très polluées des pays pauvres. La pollution de l'air des villes canadiennes, même si elle a diminué depuis 40 ans, peut aussi contribuer à aggraver les risques de cancer. Citation. Jusqu'à récemment, on étudiait le lien entre pollution et cancer du poumon, surtout en Asie. Fin de citation, explique le virologue Brian Oliver de l'Université technologique de Sydney en Australie, qui signait une étude sur le sujet ce printemps dans le British Journal of Cancer. Citation, il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que la pollution atmosphérique avait aussi un impact dans les villes occidentales, où la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée à partir des années 1980. Fin de citation. Risque multiplié par deux ou trois. Il n'y a pas encore de données précises permettant de voir dans quelle mesure la pollution atmosphérique augmente les risques de cancer. Mais selon le chercheur, l'effet de la pollution est semblable à celui de l'obésité, qui fait augmenter de deux à trois fois les risques de certains cancers. En comparaison, les fumeurs courent 10 fois plus de risques de développer un cancer que les non-fumeurs. Citation. La pollution atmosphérique est probablement la deuxième cause de cancer du poumon dans le monde. Fin de citation, estime quant à elle Joan Schiller, oncologue à l'Université du Texas, qui publiait cet hiver dans la revue BMJ Oncology une méta-analyse sur le sujet. Elle utilise le terme « probablement » parce que les cancers dus au radon sont sous-estimés, selon elle. Le radon est un gaz radioactif, invisible et inodore, qui provient de la décomposition naturelle de l'uranium dans le sol. Il n'est pas dangereux à l'air libre, mais peut s'accumuler à des niveaux dangereux dans les espaces clos, comme les maisons, et augmenter le risque de cancer. Selon la Société canadienne du cancer, 16% des cancers du poumon au Canada sont liés à l'exposition au radon dans les maisons. Autour des autoroutes. Le risque de cancer augmente nettement chez les personnes vivant à proximité des autoroutes, surtout dans les 100 mètres voisinant des voies rapides où circulent beaucoup de camions brûlant du diesel. Citation, à 400 mètres, soit en hauteur, soit à l'horizontale, le risque devient plus faible. Fin de citation, relève Brian Oliver. Le problème, poursuit-il, c'est que les logements à proximité des voies rapides sont souvent moins chers et attirent les jeunes couples en âge d'avoir des enfants. Et pour les enfants, la pollution atmosphérique a d'autres conséquences médicales, en plus d'augmenter les risques de cancer. Les cancers liés à la pollution atmosphérique concernent surtout les poumons et les voies respiratoires, tête et cou. Mais de nouvelles études montrent que les particules fines de la pollution, surtout celles qu'on désigne par le terme PM2,5, peuvent migrer dans le sang et affecter d'autres organes, détaille la Dr. Schiller. La pollution atmosphérique pourrait aussi être liée à un mystère récent de la santé publique, la hausse des cancers du poumon chez les jeunes, qui fument beaucoup moins que les générations précédentes. Cette augmentation n'a pas été documentée par une étude scientifique, mais plusieurs médias en ont fait état. Le virologue Brian Oliver confirme, citation, on pense que la pollution atmosphérique pourrait jouer un rôle. Oui, l'air des villes occidentales est plus propre qu'avant, mais il y a de plus en plus de gens dans les villes. Fin de citation. La Dr. Schiller, de son côté, estime que certains cancers du poumon d'avant l'an 2000 pourraient avoir été non détectés et causés par la pollution atmosphérique. Il se peut qu'on ait détecté ces cancers seulement après des métastases dans d'autres organes, selon elle. Quelles sont les prochaines questions auxquelles la recherche scientifique devra s'attaquer? Citation. On veut comprendre le mécanisme qui lie la pollution atmosphérique, notamment les particules fines, au cancer. Fin de citation, répond la docteure Schiller. Source Statistique Canada. 60% proportion de la population canadienne qui habitait des villes en 1961. 74% proportion de la population canadienne qui habitait des villes en 2001. 82% proportion de la population canadienne qui habitait des villes en 2021. C'était « La pollution atmosphérique aggrave les risques de cancer », un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 septembre 2025 dans La Presse.
La lecture et nous, un texte de Chantal Guy, paru le 11 octobre 2025 dans La Presse. Louise Labbé, grande poétesse française de la Renaissance, disait que « le plus grand plaisir qui soit après l'amour, c'est d'en parler ». Il en va de même pour la lecture. Je ne connais personne qui résiste à l'envie de parler en long et en large du dernier livre qui l'a passionné. J'irai plus loin. La lecture comme simple activité donne envie d'en jaser comme d'autres peuvent nous entretenir pendant des heures sur la course à pied. En juillet 2025, lorsque j'ai fait un appel à tous dans cette chronique pour savoir qui avait senti que son rapport à la lecture avait changé dans la dernière décennie où les écrans se sont multipliés, je me doutais bien que j'allais recevoir beaucoup de courriels. Mais à ce point-là, pas du tout. Les réponses ont déboulé pendant tout l'été, ça m'a pris au moins 2 jours de retour de vacances pour lire chaque message, dont la plupart étaient de longues confessions. Un grand merci pour ça. Au-delà du sujet qui inspire toujours, j'ai senti que ça touchait un point très sensible. Pour chaque personne qui m'a écrit, la lecture a été, à un moment ou un autre de sa vie, un aspect important de son identité. La lecture soutenue de livres, on s'entend, car rappelons que les gens n'ont pas cessé de lire, c'est plutôt notre façon de lire qui a été bousculée depuis l'Internet. Et on sent une réelle inquiétude que ça se perde. Sommes-nous les dernières générations de lecteurs de banals bouquins? Avec qui pourrons-nous partager cette expérience dans l'avenir si même ceux et celles qui ont beaucoup lu sont en train de déclarer forfait? Il y avait dans ces messages des lecteurs repentants, honteux de leur dépendance aux réseaux sociaux qui leur ont bouffé ce temps qu'ils consacraient autrefois à autre chose. D'autres, rassurés d'apprendre qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs questionnements. Des parents fatigués qui s'en mettent probablement un peu trop sur les épaules. Des lectrices en plein renouveau, pas loin d'être des coachs, qui lancent des clubs de lecture. Des technophiles qui ne jurent que par leur liseuse sans laquelle ils ne seraient pas revenus à leurs premières amours. Ce qui relie tous ces courriels est cette conviction qu'on ne veut pas se faire enlever quelque chose qui a été important et fondamental dans notre développement d'être humain sans opposer un minimum de résistance. Fait notable, plusieurs d'entre vous ont évoqué le désir de retrouver une magie et un bonheur qui remonte à l'enfance. Ce n'est pas seulement une envie intellectuelle, c'est émotif. Où est donc passé ce plaisir qui a comblé tant d'heures autrefois? Qu'est-il arrivé à notre capacité de concentration? Un des plus beaux courriels que j'ai reçus est celui d'Huguette Fillion. Je reviens graduellement à la lecture à la suite du constat que je passais trop de temps sur mes écrans. Depuis l'avènement de Trump dans nos vies, à chaque instant de la journée sur les lignes de presse numériques, j'ai fait un virage à 180 degrés. fermer la télé abrutissante et limiter le cellulaire aux échanges courriels, aux textos et quelques captures d'écran en guise d'aide-mémoire. Alors, devinez quoi? En reprenant activement la lecture d'un livre, j'ai l'impression de ralentir le temps, mon temps à moi. C'est un peu rajeunir, dans mon cas. Mon imagination que je croyais morte sous les bombardements d'images se réactive. Dans cette économie de l'attention où l'on s'arrache nos cerveaux, vous êtes nombreux à vouloir récupérer vos billes après avoir un peu trop erré pendant des années. J'ai fait tout d'abord appel à la science comportementale, explique Madeleine Beauchamp. 30 minutes de lecture à la même heure, tous les soirs, pour reprendre l'habitude. Ça fonctionne, mais il faut redoubler de vigilance, c'est-à-dire bannir les écrans de la chambre à coucher et s'entourer de livres partout en tout temps. La poésie et les essais au salon, la fiction au lit, à la piscine et dans les transports en commun. Comment lutter contre ce bulldozer dans nos vies? Se demande Éric Harvey-Girard. Remarquez, je suis un neuroscientifique. Je fais de la recherche sur la mémoire et les effets de la sérotonine. J'ai un cours spécifique sur l'économie de l'attention qui se développe depuis les années 1940 avec le cinéma, les magazines, la télévision et la radio, mais qui a atteint un niveau de personnalisation incroyable qui nous attache le cerveau comme un saucisson prêt à servir sur le plateau de l'insignifiance et de la désinformation. Je sais tout ça. Je l'ai étudié, je l'enseigne parfois, et j'en suis tout aussi dépendant que tout le monde. On dit souvent que pour régler un problème, il faut d'abord reconnaître qu'il y en a un, et vous en êtes tous très conscients, parfois même un peu fâchés d'être tombés dans le piège de la facilité. Comment les gens nourrissent-ils leur vie intérieure? Car c'est de cela qu'il s'agit au final, croit Benoît Arlabosse. La lecture, quelle qu'elle soit, apaise et nourrit la bête intérieure, elle élève, donne accès à l'esprit d'un autre. On n'est jamais véritablement seul avec un livre. Je ne saurais mieux dire. En fait, en vous lisant, j'ai compris que la bataille de la lecture n'était pas encore perdue, mais que la guerre était bel et bien commencée dans les chaumières. Et qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on pense à vouloir se porter volontaire pour sauver probablement l'un des meilleurs remparts contre les ingénieurs du chaos et leurs assauts sur nos esprits. C'était « La lecture et nous », un texte de Chantal Guy, paru le 11 octobre 2025 dans la presse.